l'heure du journal avec vous, Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Peter Sherif déféré la nuit dernière au parquet pour exécuter sa peine de prison de 2011. Le djihadiste doit également être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction dans le cadre d'une nouvelle information judiciaire. Le parquet a requis sa mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels.
Florian Philippot vient de déposer la marque Gilet jaune à l'Institut national de la propriété intellectuelle. L'ancien bras droit de Marine Le Pen veut conduire aux européennes une liste hybride mi-patriote, mi-gilet jaune.
La CGT de Renault dénonce le manque de transparence du constructeur. En particulier à propos d'une holding aux Pays-Bas. Il s'agit d'une société qui aurait servi à rémunérer de hauts cadres de Renault. Le syndicat demande à l'État d'intervenir.
L'invité de la séquence interview, ce sera le politologue Frédéric Michaud, directeur du département Opinion et Politique de Opinionway. Nous ferons le point sur l'année politique 2018.
Et puis nous terminerons cette édition par un exploit réalisé par un Américain. Il a traversé l'Antarctique seul et sans assistance. À 12h55, seconde partie de la grande table avec vous, Raphaël Bourgois.
Mais écoute, on va remonter loin dans l'histoire, Antoine Marette, puisque nous allons parler d'archéologie, de paléontologie et de préhistoire.
Passionnant, à tout à l'heure. Peter Sherif doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il s'agit d'une nouvelle information judiciaire qui concerne son séjour et ses activités djihadistes au Yémen, où il était devenu un cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Cette information judiciaire fait suite à une enquête préliminaire ouverte en 2017. Le parquet a requis sa détention provisoire. Bonjour Sarah Cosolino.
Bonjour.
Peter Sherif avait devait de toute façon retourner en prison puisqu'il avait été condamné en 2011 pour avoir combattu en Irak.
Oui, ça fait 7 ans que la justice française court après Peter Sherif. Il a disparu en 2011 au dernier jour de son procès à Paris. Abou Hamza, de son nom de guerre, est un des djihadistes français les plus recherchés au monde, classé sur la liste noire des combattants terroristes étrangers par les États-Unis en 2015. Peter Sherif réussit sa première évasion à Bagdad en 2007. Alors qu'il purge une peine de 15 ans de prison en Irak pour ses activités terroristes dans les rangs d'Al-Qaïda. Il s'enfuit vers la Syrie avant d'être finalement extradé par la France. Mais après 18 mois d'incarcération, il parvient à s'échapper en mars 2011. Le 16 décembre dernier, il est finalement arrêté à Djibouti avec de fausses pièces d'identité. Selon la présidence djiboutienne, il arrive du Yémen où il était devenu un cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. C'est pour ces derniers faits que Peter Sherif est placé en détention provisoire. En France, depuis dimanche, il fait valoir son droit au silence depuis le début de sa confrontation avec les enquêteurs. Ce Français de 36 ans est aussi un proche des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Mais si son nom apparaît dans l'enquête sur l'attentat contre le journal satirique, il ne fait l'objet d'aucun mandat d'arrêt dans ce dossier. Peter Sherif est considéré comme une précieuse source d'information pour les services de renseignement occidentaux comme pour la justice française.
Merci à vous, Sarah Cozzolino. Florian Philippot vient de déposer la marque Gilet jaune à l'Institut national de la propriété intellectuelle. L'ancien bras droit de Marine Le Pen compte bien en faire profiter son nouveau parti. Il veut conduire aux européennes une liste hybride, mi-patriote, mi-gilet jaune. Bonjour Steven Goyer.
Bonjour Antoine.
Florian Philippot n'est pas le seul à vouloir récupérer le mouvement de protestation puisque le PCF souhaite également ouvrir sa liste aux gilets jaunes. De l'extrême gauche à l'extrême droite, les gilets jaunes ont décidément la cote.
Exactement, puisque vous le disiez, Florian Philippot a même déposé l'appellation auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle, procédure pour que la marque ne tombe pas, je cite, entre de mauvaises mains macronistes, les prédateurs, pour reprendre ces termes. Il appelle aussi donc à la création d'une liste hybride, mi-gilets jaunes, mi-patriotes, en vue des élections européennes. En faisant cela, le président des patriotes ne s'y trompe pas, les gilets jaunes, ce ne sont pas que les gens sur les ronds-points, ce sont aussi les millions de Français qui les soutiennent, a-t-il expliqué sur le plateau d'LCI. Crédité d'1% d'intention de vote pour les européennes, les patriotes ne diraient pas non à un coup de boost estampillé gilet jaune. Alors, Florian Philippot n'est pas le seul à jouer la carte de la séduction. Le parti communiste, lui aussi, a tendu la main au mouvement en appelant à la création de listes ouvertes aux gilets jaunes. Même discours du côté du Rassemblement National, prêt à leur faire une place sur ces listes. Des organisations qui voient d'un mauvais œil la possible création d'une liste gilet jaune à proprement parler, qui pourrait bien ponctionner une partie de leur électorat sans compter les soutiens un petit peu moins partisans, celui du chanteur Francis Lalanne, de l'écrivain anciennement macroniste Alexandre Jardin, tous deux prêts à constituer des listes à leur côté. En 2008, on voyait sur les affiches d'une campagne de prévention routière à propos du fameux gilet, Karl Lagerfeld expliquait « c'est jaune, c'est moche et ça ne va avec rien ». 10 ans après, le jaune est redevenu très tendance, surtout sur le plan politique.
Merci à vous Steven Goyer. La CGT de Renault dénonce le manque de transparence du constructeur, en particulier à propos d'une holding aux Pays-Bas. Il s'agit d'une société qui aurait servi à rémunérer de hauts cadres de Renault. Le syndicat demande à l'État d'intervenir. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Marette.
D'après des documents confidentiels, un membre du comité exécutif de Renault a touché par le biais de cette holding un complément de rémunération de 80 à 130 000 euros pendant plusieurs années.
Et oui, cette société, c'est RNBV qui appartient au groupe Renault-Nissan. Cette holding, créée en 2002, basée aux Pays-Bas, est normalement en charge de la coordination des activités à l'échelle mondiale des deux entreprises automobiles. Elle dispose donc d'un pouvoir important puisqu'elle décide aussi de la stratégie des implantations des organes de mécanique qui sont fabriqués par les deux constructeurs. Sauf qu'elle permettrait aussi de rémunérer des hauts cadres de Renault. D'après le syndicat, un membre du comité exécutif a touché un complément de salaire de 80 à 130 000 euros pendant plusieurs années. Une compensation légale et validée par un commissaire aux comptes, se justifie Renault, qui précise que tous les membres du comité de direction de Renault en ont bénéficié. La CGT qui dénonce aussi le fait que ces éléments n'apparaissent dans aucune ligne de compte du constructeur français. Dans une lettre envoyée le 11 décembre dernier à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie est pour l'instant resté sans réponse. Elle demande donc à l'État actionnaire de Renault d'intervenir, mais aussi plus de transparence dans l'affaire Carlos Ghosn qui secoue actuellement le constructeur automobile.
Merci à vous Hakim Kasmi. Pour la plupart des salariés, la paye tombe ces jours-ci et ça fait du bien. Et il y a fort à parier que votre bulletin de salaire de janvier sera très différent de celui de décembre, car une petite révolution est en marche, le prélèvement à la source. À partir du mois prochain, l'impôt sur le revenu sera prélevé directement chaque mois sur la fiche de paye. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour.
Les entreprises sont dans les starting blocks et le gouvernement retient son souffle, car le prélèvement à la source pourrait bien avoir des effets d'optique avec des conséquences sur l'opinion publique.
Oui, même si, rappelons-le, ce qui est réformé, ce n'est pas l'impôt sur le revenu, mais la manière dont il est collecté. Le montant dû, lui, ne changera pas. En revanche, il n'y aura plus de décalage dans le temps entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt. Pour les salariés, l'impôt sera prélevé directement par l'employeur. Pour les retraités, la collecte sera réalisée par les caisses de retraite. Quant aux travailleurs indépendants, ils verseront un acompte mensuel ou trimestriel, calculé par l'administration en fonction des revenus précédents, puis ajusté si nécessaire. Autrement dit, ce qui va changer, c'est le chiffre net en bas de la fiche de paye des salariés ou des retraités. Les opposants à la réforme estiment que cela pourrait avoir un effet psychologique, le sentiment de gagner moins et des conséquences économiques sur la consommation. Au sein de la majorité, certains redoutent aussi que cela n'amoindrisse la visibilité et la perception des récentes mesures censées augmenter le pouvoir d'achat à court terme, à savoir la suppression des cotisations salariales décidées à l'automne et les récentes réponses aux gilets jaunes, voilà qui aurait un coût politique dans le contexte social actuel. Gérald Darmanin, le ministre de l'action et des comptes publics, ne manque pas lui une occasion de défendre sa réforme, d'assurer que tout est prêt et que la pédagogie suffira. Le risque potentiel est finalement peut-être plus technique avec l'arrivée de nouveaux collecteurs, à savoir les entreprises. Si les plus grandes disposent déjà de canaux de transmission des informations à l'administration, c'est pour les plus petites que cela pourrait s'avérer ardu.
Merci à vous Catherine Pétillon. Et des impôts, on passe aux taxes, une taxe qui ne devrait pas ravir les automobilistes franciliens. Elle concerne les parkings d'Île-de-France. Elle a été votée il y a quelques jours par les députés. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Cette taxe est censée financer en fait le chantier du Grand Paris Express.
Oui, le Grand Paris Express dont les coûts, on le sait, sont beaucoup plus élevés que prévu. Alors pour trouver d'autres financements, le député LR, Gilles Carrez, a proposé cette mesure dans le projet de loi de finances 2019. En fait, il s'agit d'élargir une taxe déjà existante sur les locaux commerciaux et les bureaux, une taxe qui s'appliquera désormais sur les espaces de stationnement commercial. Concrètement, ça représente jusqu'à 7 euros par an et par mètre carré de parking parisien d'ici à 2022. Ce sera une augmentation progressive. Alors forcément, les exploitants de parking comme EFIA ou Indigo sont montés au créneau. Ce sont eux qui devront s'acquitter de cette taxe. Mais ils ont prévenu, il y aura forcément une conséquence pour les clients. Dans un communiqué commun, la Fédération nationale des métiers du stationnement et le Conseil national des professions de l'automobile estiment que les tarifs augmenteront de 5 à 20 % à Paris, jusqu'à 30% dans les communes d'Île-de-France. Les exploitants ont bien essayé de limiter la casse. Leur argument, taxer les parkings parking des magasins est une aberration puisque le rendement est largement inférieur à celui d'un magasin. Résultat, la note a été un peu allégée en deuxième lecture par les députés, avec notamment des taux moins élevés en dehors de Paris, mais pas de quoi empêcher une hausse conséquente des tarifs pour les usagers.
Merci Laura Dulieu. Une Harley Davidson entièrement électrique. À partir de 2019, le mythique constructeur américain va commercialiser sa première moto électrique en Amérique du Nord et en Europe. Et c'est un concessionnaire français installé dans le 11e arrondissement de Paris qui sera le premier à vendre ce nouveau modèle sur le sol européen. Reportage signé Yann Gallic.
Arlène Nichagnan vend des Harley Davidson depuis 28 ans dans son magasin situé à quelques pas de la place de la Bastille. L'an prochain, il sera le seul dans toute l'Union européenne à pouvoir commercialiser la nouvelle Harley 100% électrique.
Qu'est-ce qui a fait le succès d'Harley? En partie la sonorité de son moteur bicylindre. Mais Harley est dans les premiers à proposer un véhicule électrique avec une sonorité agréable pour qu'on l'adopte et qu'on en fasse le bruit de l'Harley Davidson du 21e siècle, du futur.
La marque américaine a bâti sa réputation sur une identité sonore très forte. Même les novices connaissent le ronflement légendaire des Harley Davidson qui ne passe jamais inaperçu. Voici maintenant à quoi ressemble le son d'une Harley électrique. Une aberration pour les puristes à l'image de Bernard Henry. Motard depuis plus de 50 ans, il possède 4 Harley Davidson.
S'amuser à faire une moto électrique, c'est un non-sens. L'Harley, avant tout, c'est une chose qui vibre, c'est une chose en métal et qui fait du bruit. Quand on arrive, par exemple, avec le moteur chaud, ça respire, c'est merveilleux. Je ne me vois pas rouler sur un jouet électrique. C'est l'horreur.
D'ici septembre 2019, le magasin Harley Davidson de Paris-Bastille ne devrait mettre en vente qu'une petite dizaine de motos électriques à un prix encore inconnu.
Et oui, on n'arrête pas le progrès. Le gouvernement japonais a annoncé hier qu'il quittait la commission baleinière internationale pour relancer la pêche commerciale de la baleine au pourtour de l'archipel. Nous vous en parlions hier midi sur cette antenne. Eh bien, que la baleine ne soit pas un mets commun, les enseignes spécialisées du Japon ont survécu à 3 décennies de moratoire en étant en fait approvisionnées par la chair issue des prises réalisées à des fins scientifiques dans l'Antarctique et le Pacifique. À Tokyo, Karine Nishimura est allée promener son micro dans ses rares restaurants et commerces qui proposent de la baleine à manger.
Grillée, panée, crue ou en beignet, la baleine se cuisine à toutes les sauces au Japon où l'on trouve quelques restaurants et shops ou poissonniers spécialisés. Près de l'ex-marché de poissons de Tsukiji, on se réjouit que la tradition de la pêche puisse revivre officiellement, car selon ce poissonnier, les Japonais savent honorer l'animal.
Les Occidentaux disent qu'il ne faut pas chasser la baleine, mais souvent ils n'y connaissent rien. Nous les Japonais, nous la mangeons certes, mais nous la préparons d'une façon extrêmement belle et respectueuse.
La taille des étals de chair de baleine n'a cependant rien à voir avec ceux de thon rouge, beaucoup plus populaires. Mais quelques clients se laissent quand même séduire par un petit carré de baleine crue, pourtant pas donné. Il faut compter environ 350 euros le kilogramme. Une certaine gêne est néanmoins perceptible, comme en témoigne cette cliente.
C'est bon, certes, mais il est vrai que c'est difficile. Car d'un autre côté, on pense aussi à l'animal qui est mignon.
À ce jour, nul ne sait si la reprise de la pêche commerciale en juillet 2019 aura ou non un effet positif sur la consommation, mais elle satisfait au moins les défenseurs de la tradition.
Midi passé de 44 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview de ce journal. Avec nous Frédéric Michaud, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département Opinion et Politique de Opinionway. Nous allons avec vous opérer un retour sur 2018. Une année marquée par la chute spectaculaire d'Emmanuel Macron dans les enquêtes d'opinion. Alors quel est selon vous le point de départ de ce désamour entre les Français et le président ?
Alors vous avez raison, hein, le fait marquant, c'est cet effondrement de la popularité d'Emmanuel Macron. Au début d'année, en janvier, il était encore majoritairement populaire. Hein, 51% des Français se déclaraient satisfaits de l'action du chef de l'État. En décembre, une vingtaine de points ont été perdus et on a désormais plus de 2/3 des Français qui se déclarent mécontents de l'action du chef de l'État. Alors entre les deux, que s'est-il passé? Il y a une rupture très très nette qui intervient dès le mois de juin et qui est exacerbé par l'affaire Benalla au mois de juillet, qui est renforcé encore par les deux démissions de la rentrée, celle de Nicolas Hulot, puis celle de Gérard Collomb, et puis qui est évidemment exacerbé en fin d'année avec le mouvement des Gilets jaunes. De ce point de vue-là, on voit bien que le premier semestre ne correspond absolument pas au second semestre. Lors du premier semestre, finalement, le travail législatif et parlementaire est relativement soutenu et l'exécutif est encore sur la lancée de 2017 avec toute une série de projets de loi qui sont présentés au Conseil des ministres et qui sont ensuite votés et des lois importantes, hein, la loi Pacte, la loi Asile et Immigration, la loi Élan, etc. etc. Et puis surtout, on a à partir du mois d'avril, ce projet de réforme de la SNCF, évidemment, qui suscite une contestation avec, vous vous souvenez, une forme de grève un peu inédite. Finalement, le gouvernement parvient à faire adopter son projet de loi, mais je crois que l'élément décisif, le point tournant de cette année, se situe en tout cas à ses racines dans cette lutte qui a opposé le gouvernement et le cheminot autour de la réforme de la SNCF. Le gouvernement a perdu, et Emmanuel Macron en particulier, beaucoup de capital politique lors de cette réforme.
Question de Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture.
Il est de quelle nature ce décrochage? Est-ce que vous avez vu, perçu, monter les mécontentements et en quoi les gens manifestaient leur mécontentement?
Alors oui, nous l'avons vu monter, nous avions vu plusieurs signes sous-jacents qui sont de deux ordres. D'abord qui sont liés à la politique qui a été menée depuis le début du quinquennat. Quand on interroge les Français, qu'on leur demande quelles sont les deux mesures emblématiques qui ont été adoptées depuis 2017, spontanément, ils en citent deux. La hausse de la CSG et l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h, qui est entré en vigueur au 1er juillet. Hein, on voit bien, on retrouve ce clivage au début de l'été, à la fin du premier semestre. Donc deux mesures qui sont très impopulaires. Hein.
Clivage Paris-Province aussi.
Clivage Paris-Province également. On retrouve là peut-être les prémices du mouvement des Gilets jaunes. Un élément qui touche au pouvoir d'achat, un élément qui touche à la mobilité et indirectement au pouvoir d'achat également à travers les carburants. Ça c'est le premier élément, je dirais que c'est la politique qui a été conduite, qui a été perçue comme inégalitaire. Et puis ensuite, il y a des éléments qui sont liés au style du chef de l'État.
Comment est-ce que on a vu qu'il y avait finalement assez peu de monde lors des manifestations sur les ronds-points par rapport au soutien de l'opinion qui est très fort, qui est resté très fort tout au long de ces semaines qui ont passé? Comment vous l'expliquez-vous? Est-ce que c'est une grève par procuration, comme on a connu en 95?
Comme on a pu la connaître en 95, je crois que c'est lié surtout au fait que nous sommes là face à un mouvement qui est extrêmement hétérogène, qui coagule diverses revendications et par conséquent dans lequel peuvent se reconnaître toute une série de Français de gauche, de droite, voire même d'extrême droite ou d'extrême gauche. On voit bien que la force de ce mouvement, c'est d'être, vous savez, en sciences politiques, on parlait de parti attrape-tout. Ben là, c'est un mouvement attrape-tout qui ratisse très très large et qui est donc dans lequel chacun peut trouver une revendication à laquelle il adhère.
L'image de président des riches qu'on attache désormais traditionnellement à Emmanuel Macron, comment est-ce qu'elle s'est installée dans l'opinion? À quel rythme et jusqu'où elle a pénétré au sein de la population?
Alors l'image de président des riches ou la critique de président des riches, c'est une critique qui était déjà adressée à Nicolas Sarkozy et qui a été reprochée également à Emmanuel Macron. Mais ce qu'on voit dans les enquêtes dépasse un peu cette idée de président des riches. Et je dirais que plutôt que ce qu'on lui reproche, c'est d'être le président de l'élite. Alors, dans l'élite, il y a les riches, il y a les très très riches, mais il y a aussi cette idée d'une France ou d'une partie de la population française qui est déconnectée de la vaste majorité, qui s'intéresse plutôt au grand large, à la mondialisation, plutôt qu'aux territoires et aux zones rurales, qui vit dans les grandes métropoles, plutôt à nouveau que dans ces territoires, ce qu'on appelle la France périphérique. Je crois que cette principale critique, c'est celle d'une déconnexion d'un président qui s'occupe avant tout des riches, des personnes qui habitent dans les grandes métropoles mondialisées, qui n'ont pas de problème de fin de mois, plutôt que de la masse de la population française.
On voit que la mobilisation des Gilets jaunes s'est un peu calmée, apaisée, là, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Est-ce que cette contestation peut ressurgir et sous quelle forme ?
Elle peut ressurgir, là. Il y a une trêve qui est liée aux fêtes de fin d'année, évidemment. Juste avant Noël, nous mesurions un soutien au mouvement des Gilets jaunes qui est encore largement majoritaire dans la population, même si on a une proportion importante et en hausse de la population qui demande que le mouvement s'arrête. Alors, est-ce que les choses peuvent ressurgir ? Est-ce que le mouvement peut reprendre de l'ampleur à la rentrée ? Pour répondre à cette question, il faut voir la façon dont la grande concertation, le grand débat qui a été annoncé par le président de la République va être organisé. Quels vont en être les aspects concrets ? En d'autres termes, est-ce qu'il va s'agir d'un véritable espace de dialogue ? Qui va aboutir à des vraies mesures et pas simplement à un catalogue de revendications personnelles, ou bien est-ce que ce sera simplement décrypté comme un gadget de communication, une ruse pour pouvoir sortir de cette crise des Gilets jaunes. Et dans ce cas-là, ce serait évidemment de nature à relancer le mouvement.
Qu'est-ce que ça change pour l'exécutif en termes de capacité d'action ? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses ?
Ça change énormément de choses parce que, évidemment, le capital politique a été très largement dilapidé au cours de cette crise. L'exécutif apparaît d'une certaine manière délégitimé, démonétisé. Il a perdu un contact avec la population. On parlait en début d'entretien d'une impopularité qui est extrêmement élevée. Tout ça, ce sont une série de handicaps pour conduire les réformes à venir qui sont pas petites, hein. La réforme des retraites, par exemple, la réforme de la Constitution et des institutions qui a été repoussée. Et puis surtout arrivent les élections intermédiaires qui traditionnellement sont défavorables à l'exécutif, les élections européennes d'abord, et on voit bien que la République En Marche est plutôt en mauvaise position alors qu'il y a quelques mois elle était plutôt favorite pour cette élection. Donc ça change énormément de choses.
Et bon, on verra l'année prochaine. Alors, rendez-vous dans un an. Merci à vous, Frédéric Michaud. J'ajoute que vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « La prophétie électorale » paru aux éditions du Cerf. On va maintenant parler d'un exploit accompli par un Américain. Il a traversé l'Antarctique seul et sans assistance, ce qui représente 1600 kilomètres. Et ça lui a pris 54 jours. Et il est revenu la nuit dernière. Bonjour Fiona Mogadam.
Bonjour.
Personne n'avait réussi en fait cet exploit avant lui.
Non, effectivement. 54 jours de traversée pour Colin O'Brady, du nord au sud, une traversée qu'il a partagée sur les réseaux sociaux et son site internet, dans des conditions extrêmes, le froid, le vent, la solitude, la peur de mourir, raconte-t-il. L'Antarctique est le continent le plus froid de la Terre, il y fait en moyenne entre moins 20 et moins 55 degrés. Alors il faut beaucoup de matériel, des vivres aussi. L'Américain les a stockés dans son traîneau, 180 kilos, attirés dans la neige et la glace. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, le matin de Noël, l'ancien triathlète de 33 ans est en train de préparer son porridge et il se lance cet énième défi. Terminer les 125 kilomètres qui le séparent de la ligne d'arrivée d'une seule traite, Colin O'Brady s'élance pour cette dernière marche, 32 heures qu'il passe sans dormir. Un véritable surhomme, d'autant plus quand on sait qu'il y a 10 ans, Colin O'Brady a été gravement brûlé aux jambes. Les médecins, à l'époque, lui avaient dit qu'il ne remarcherait plus jamais normalement.
Merci à vous Fiona Mogadam. Beau temps sur une majeure partie du pays, quelques nuages sur la Vendée et l'Alsace, ailleurs du soleil. Le froid s'installe sur la France et pas encore l'Antarctique. Hein. 0 degré seulement à Metz, 3 à Paris, 14 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.